Il est 6h.
Quand vous expliquez qu'une femme qui a fait des études, qui est cadre supérieur, qui a réussi, qui a mené très correctement sa carrière, elle n'a réussi que parce que c'est une femme, c'est porter atteinte à sa crédibilité professionnelle.
Une affaire de harcèlement au sein d'une entreprise devant la justice aujourd'hui, un exemple qui prend tout son sens en cette journée internationale des droits des femmes. La mort brutale d'Olivier Dassault, le député de l'Oise, fils du grand chef d'industrie Serge Dassault, est décédé hier dans un accident d'hélicoptère. Le gouvernement mise sur une accélération de la vaccination en France, l'hypothèse d'une mise en place de vaccinodromes est sur la table.
À suivre votre journal des sports également, Corinne Boulot, et puis mon invité inattendu à l'occasion du match des étoiles la nuit dernière en NBA, souvenir du seul spectateur français à avoir jamais réussi le tir à 100 000 euros à la mi-temps d'un All-Star Game en basket. Très bon réveil à tous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En cette journée internationale du droit des femmes, donc, Corinne Boulou, la justice va se prononcer aujourd'hui sur une affaire qui a toutes les caractéristiques du harcèlement.
Oui, hasard du calendrier, cette affaire intervient dans cette journée si symbolique pour les femmes. En 2019, pendant 2 mois, l'ancien employeur d'une DRH a inondé de mails malveillants des milliers de personnes du nouvel environnement professionnel de sa victime. Il ne s'est pas arrêté là puisqu'il a également ciblé avec ses mails des centaines de proches et connaissances privées de cette dernière, Chloé Triomphe.
Oui, ce patron d'entreprise n'a pas supporté que sa DRH le quitte sur un plan personnel, ils avaient une liaison, et qu'elle décide aussi de changer d'employeur. Sa vengeance, il l'a donc exercée de manière massive en s'adressant aux futurs collègues de sa victime, comme le détaille l'avocat de cette dernière, Maître de la Morandière.
Il a envoyé à environ 2000 salariés de cette nouvelle société des emails extrêmement malveillants, des photos d'elle nue, des photos à caractère sexuel. Quand vous expliquez qu'une femme qui a fait des études, qui est cadre supérieur, qui a réussi, qui a mené très correctement sa carrière, elle n'a réussi que parce que c'est une femme et qu'elle joue des faveurs sexuelles. C'est porter atteinte à sa dignité, certes, mais c'est aussi porter atteinte à sa crédibilité professionnelle.
À cela se sont ajoutés des centaines de courriels malveillants, calomnieux et intimes adressés à près de 300 personnes, entre la famille de cette femme, ses amis, sa paroisse et même les parents de l'école de ses enfants. Des actes multiples, répétés, qui caractérisent le harcèlement, selon l'avocat de la victime. Le parquet a requis 30 mois de prison contre l'auteur des faits.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Dans l'actualité également ce matin, la disparition brutale d'Olivier Dassault.
Oui, le député de l'Oise et capitaine d'industrie Olivier Dassault, fils de Serge Dassault, est décédé à l'âge de 69 ans dans le crash de son hélicoptère à Touques, près de Deauville, dans le Calvados. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. La maire de Beauvais, Caroline Caillot, se souvient d'un homme proche de ses concitoyens.
C'était un homme exceptionnel, très proche des gens, à leur écoute et très attaché à Beauvais et au département de l'Oise, puisqu'il avait succédé à son grand-père en 1988. En plus, c'était un homme qui avait beaucoup de talent. Il était un grand photographe, un musicien et puis évidemment un capitaine d'industrie important qui faisait briller mondialement la France grâce à l'aviation.
Caroline Cailleux, la maire de Beauvais, interrogée par Aurélie Herbemont. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage aussi aux députés en soulignant qu'Olivier Dassault n'a cessé de servir son pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte, a-t-il précisé le chef de l'État dans un tweet.
À 6h04 sur Europe 1, c'était l'événement de la nuit, les déclarations fracassantes de Meghan et Harry dans une interview à la chaîne américaine CBS aux États-Unis.
Oui, ils se sont confiés à la grande prêtresse de la télé américaine Oprah Winfrey. Parmi les propos à retenir, Harry affirme qu'ils ont fait avec sa femme tout leur possible pour rester dans la famille royale. Rappelons que le couple a annoncé en janvier 2020 qu'il renonçait à son rôle au sein de cette famille royale. Meghan Markle a confié de son côté qu'elle avait eu des pensées suicidaires lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale et qu'elle n'avait reçu aucun soutien psychologique malgré ses demandes répétées. Autre moment fort de cette interview, quand l'ancienne actrice qui est métisse a affirmé que des membres de la famille royale s'étaient inquiétés de la couleur de peau avant la naissance de son fils.
Durant ma grossesse, on a eu des discussions multiples avec le palais sur le fait que notre bébé n'aurait pas de protection, pas de titre. Des conseillers se sont même préoccupés de savoir à quel point sa peau serait foncée.
Meghan Markle cette nuit sur CBS avec son époux Harry. Ils ont d'ailleurs révélé qu'ils attendaient leur deuxième enfant.
Une petite fille, absolument. Sur le front de la pandémie, Corinne Boulot, après ce week-end de vaccination intensif, la question des vaccinodromes revient sur la table.
Oui, ce week-end, partout en France, une campagne de vaccination massive s'est mise en place sous l'œil des membres du gouvernement qui étaient d'ailleurs sur le terrain. Depuis vendredi, 585 000 personnes ont été vaccinées, selon Jean Castex. Une opération rendue possible grâce à l'ouverture de nombreux centres de vaccination ce week-end. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Alors que vont devenir tous ces centres ? Vont-ils être transformés justement en vaccinodromes ?
Alors non, pour le moment il n'y a pas de généralisation des vaccinodromes, même si ce n'est pas un totem. On ne dit pas qu'on n'en veut pas par principe, m'a-t-on expliqué au ministère de la Santé, mais il faut que cet outil soit cohérent. Autrement dit, difficile d'imaginer pour le moment de gigantesques centres de vaccination, alors que déjà les doses ne suffisent pas, et puis qu'on vaccine les personnes les plus âgées et à risque, peu aptes donc à se déplacer et surtout se regrouper. En revanche, en avril, lorsque l'on recevra 10 millions de doses et que tous les plus de 50 ans seront amenés à se faire vacciner, pourquoi pas imaginer de plus gros centres, détaille un proche d'Olivier Véran. Il faudra voir où nous en sommes, c'est-à-dire à quel rythme vaccinent les 1200 centres déjà répartis dans tout le pays, les pharmacies qui vont rejoindre le mouvement, les généralistes qui s'y mettent petit à petit. On compte surtout ces canaux pour faire du volume, souligne-t-on au ministère de la Santé. Et alors si et seulement si c'est nécessaire, une réflexion sur la mise en place d'une stratégie vaccinodrome s'ouvrira.
Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1.
Réunion de crise entre professeurs aujourd'hui à l'Institut d'études politiques de Grenoble.
Secoué depuis décembre par des débats autour de l'islam et du terme islamophobie, jeudi, des étudiants ont collé des affiches visant nommément deux professeurs, les traitant de fascistes et islamophobes. Une enquête a du coup été ouverte par le parquet de Grenoble pour injures publiques et dégradation. Mais l'un des professeurs visés, Klaus Klinzer, qui enseigne l'allemand dans cette IEP, n'a pas porté plainte contre les étudiants. Il met surtout en cause l'attitude de certains de ses collègues lors de cette polémique. C'est ce qu'il a confié à Damien Mestre.
Porter plainte contre les étudiants qui sont jeunes, immatures, parfois bêtes, qui font la même chose, plus ou moins depuis des décennies, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'ai rien contre eux. J'ai presque plus envie de porter plainte contre ceux de mes collègues qui publiquement m'ont accusé de harcèlement, d'atteinte morale violente, uniquement parce que j'ai exprimé un différend dans un dialogue interne par mail avec une collègue. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de islamophobe. Je n'aime pas la forme fondamentaliste, radicale, politique de l'islam qui me fait peur, et je le dis, et qui est dangereux et totalitaire. Si ça, c'est de l'islamophobie, c'est la fin des haricots. Et je vais aussi continuer à défendre mon point de vue et cette lutte pour la liberté d'expression qui est menacé, mais bon, je n'ai pas peur.
Klaus Klinzer, professeur à Sciences Po Grenoble, qui n'assistera pas à la réunion, je le précise, de crise aujourd'hui.
Enfin, pour terminer, Corinne Boulou, l'inquiétude des habitants de Tokyo.
Oui, en raison de la pandémie, une majorité des Japonais sont opposés à la présence de public venu de l'étranger aux Jeux Olympiques l'été prochain, selon un sondage publié aujourd'hui. Alors que les organisateurs annonceront une décision à ce sujet à la fin du mois, probablement, 18% seulement des personnes interrogées sont favorables à ce que des spectateurs étrangers soient autorisés à entrer au Japon pour les JO, alors que 77% sont contre.
Merci pour ce journal, Corinne Boulou. À 6h09, vous restez avec nous, on passe au sport. Et à la une de l'actualité sportive ce matin, l'élimination inattendue en Coupe de France de l'Olympique de Marseille par une équipe de 4e division.
Du travail d'amateur, titre l'équipe ce matin, ridicule
à
la une de
syllabes.
La Provence. Ouais, effectivement, pour illustrer le cauchemar marseillais et le bonheur des amateurs de Canet en Roussillon. Le club de National 2 s'est offert l'OM à la régulière, 2-1. La honte, a reconnu après le match le milieu de terrain Camara, dégoûté. Une faute pour Nasser Larguette, l'entraîneur intérimaire, au micro de Jean-François Pérez.
On n'a pas le droit de se faire sortir comme ça. On est l'OM, et c'est ce que je leur ai dit. On doit montrer sur le terrain qu'on est une Ligue 1 contre une National 2. C'est comme si on jouait contre notre réserve, et c'est vrai qu'il y a une remise en cause de chacun d'entre nous. J'estimais que mettre l'équipe entre les mains du nouveau coach avec une victoire en coupe aurait été de la meilleure des façons, et c'est une énorme déception personnelle et une grosse amertume.
L'Argentin Georges Sampaoli, qui prendra ses fonctions d'entraîneur demain, a donc pu évaluer l'ampleur de la tâche qui l'attend. En attendant, Canet en Roussillon rejoint en huitième de finale une autre équipe de National 2, les Voltigeurs de Châteaubriand.
C'est beau et... ça comme nom, les Voltigeurs de Châteaubriand, pas mal.
Ouais, ça me plaît aussi. Et deux équipes de Ligue 1, Lille et Angers, qui se sont qualifiées hier. Ce soir, pour clôturer ces 16e de finale, à 20h, Nice reçoit Monaco.
En athlétisme, les Voltigeurs de l'équipe de France ont rapporté 4 médailles des championnats d'Europe en salle qui avaient lieu en Pologne ce week-end.
Oui, les Bleus ont terminé en beauté hier sur 2 médailles d'or, celle de Willem Belossian sur 60 mètres haies et Kevin Mayer en heptathlon. Pour le détenteur du record du monde du décathlon, ce deuxième titre en salle, un an et demi après son échec aux Mondiaux de Doha, est un bon moyen de se relancer pour les Jeux de Tokyo.
On connaît tous mon potentiel, on sait tout ce que je peux faire au JO. Je sais que je suis ultra favori et encore plus maintenant. J'assume ce statut, je vais travailler sur ce que je peux travailler. Je fais du décathlon, c'est 10 épreuves. Il peut tout se passer. Je me dirai jamais vainqueur des Jeux Olympiques avant de l'être, mais je sais que je fais tout pour et que tout va dans la bonne direction aujourd'hui. Donc c'est sûr que je pense chaque semaine, j'augmente mon pourcentage de chance d'être champion olympique. Et je pense qu'il est de plus en plus élevé, honnêtement.
On ajoutera aux deux titres européens de la soirée la médaille d'argent pour le perchiste Valentin Lavillenie, le petit frère de Renaud, dans un concours remporté à 6,06 m par le prodige suédois Duplantis.
Oui, qui reste assez indépassable depuis plusieurs années. En rugby, Fabien Galthié a révélé hier la liste des 31 joueurs qui vont préparer cette semaine le match de samedi contre l'Angleterre.
Et bonne nouvelle pour le 15 de France qui voit le retour des joueurs qui nous avaient enthousiasmés avant l'épisode Covid, Simon Ruben.
Oui, on retrouve un groupe quasiment au complet avec tous les joueurs qui ont contribué aux victoires précédentes, ou presque. Arthur Vincent est mis de côté, suspicion de Covid. Gabin Villiers, qui avait marqué ses premiers essais en bleu, est lui blessé pour 6 semaines. Mais outre les retours du capitaine Olivon, d'Antoine Dupont et puis de tous les autres, il y a deux bonus, en l'occurrence deux joueurs qui étaient blessés en début de tournoi et là qui vont enfin revenir. C'est le talonneur Camille Chat et puis le demi d'ouverture Romain de Tamac, qui sont d'habituels titulaires à leur poste, et ça va faire beaucoup de bien au 15 de France.
Merci Simon Rubin.
En bref, pour terminer, un mot du All-Star Game de basket aux États-Unis.
Et c'est la team LeBron James qui a remporté ce All-Star Game face à la team Kevin Durant, 170-150, c'était cette nuit à Atlanta.
Merci beaucoup pour ce journal et journal des sports signé ce matin Corinne Boulou.
Europe 1.
Et Corinne nous en parlait à l'instant, c'était cette nuit l'un des rendez-vous de l'année pour tous les fans de basket, le All-Star Game en NBA, le match opposant les meilleurs joueurs de la saison du championnat américain. Et à cette occasion, mon invité inattendu est devenu un homme riche grâce à l'un de ces matchs, le All-Star Game français. Bonjour.
Bonjour, c'est Thomas Béraud.
Bienvenue sur Europe 1, Thomas Béraud. Nos auditeurs se souviennent peut-être de votre nom. Il y a 8 ans, vous deveniez le premier et à ce stade, le seul spectateur français à réussir le tir à 100 000 euros depuis le milieu de terrain. C'est un jeu concours.
Théo Manval sur Europe 1.
Mon invité inattendu ce matin est donc le seul français à avoir réussi le tir à 100 000 euros à la mi-temps du match de basket rassemblant les meilleurs joueurs de la saison du championnat de France. C'était en 2013 à Bercy, Thomas Béraud. Déjà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé tiré au sort comme ça au milieu du terrain devant 15 000 spectateurs ?
Ouais, c'est quelque chose qui se fait par un tirage via une lumière qui se déplace dans le public de Bercy, qui tourne sur tout le monde et qui au bout d'un moment s'arrête sur une des personnes, et j'ai eu la chance d'être cette personne.
Donc là vous savez que vous allez devoir descendre les marches devant 15 000 personnes, tenter un tir, une seule chance pour remporter 100 000 euros. Vous étiez je crois avec vos coéquipiers de l'équipe de basket, qu'est-ce qu'ils vous disent avant que vous alliez vous lancer ?
Ah bah déjà quand la lumière est arrivée, moi, j'avais déjà gagné juste le fait d'être choisi, c'est... Comme vous avez dit, 1 sur 15 000, on n'y croit pas trop. Juste, ils m'ont dit félicitations, éclate-toi. Et c'est en descendant que la pression a commencé à monter un peu plus.
J'imagine. Et donc là, vous devez tenter de mettre ce panier en un seul tir. Vous avez droit à un seul essai. Vous êtes à combien de mètres de distance ?
Je dirais entre 12 et 14 mètres. Ça fait une petite distance et d'avoir tous les gens et de se dire qu'il y a la télé et que quoi que je fasse, ça va rester sur YouTube et tout ça, ça met encore plus la pression.
Pour un panier de basket, je rappelle, 12 à 14 mètres de distance, le panier fait 45 cm de diamètre. Vous jouiez au basket à cette époque, on s'entraîne parfois à ça, c'est quand même pas un geste qui est très courant, c'est plutôt un coup de bluff en général.
Oui, on s'entraîne un petit peu à faire ça avec les collègues en fin d'entraînement, mais c'est pas quelque chose qui se fait couramment pendant les matchs, donc on essaie de temps en temps, ça rentre une fois sur mille. On va dire que là, c'était le bon jour.
Ouais, vous avez eu la chance que ce soit le bonjour pour que ça rentre. Le commentateur phare de la chaîne qui diffusait ces matchs de basket à l'époque vous suggère de prendre un petit peu d'élan avant de tirer. Finalement, vous le faites pas, vous mettez le panier et là, c'est quoi ? C'est l'explosion.
Bon, j'avais l'habitude entre guillemets de quand je veux faire l'entraînement de tirer comme ça. Donc j'ai fait bon, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Et le but c'était juste de pas être ridicule, sachant que j'avais tous mes copains qui étaient là. Je me dis, faut pas que je me fasse tailler à vie, donc on va essayer de faire quelque chose de concret. Et bah, quand ça rentre, là, par contre, ouais, c'est plus de son, plus d'image. J'ai pas réalisé sur le moment, et c'est même quand le chèque est arrivé, que je me suis rappelé qu'effectivement, il y avait une somme à l'arrivée, mais c'était, enfin, j'y pensais plus du tout à ce moment-là.
Vous avez reçu même un coup de fil, je crois, de Tony Parker.
Tout à fait. C'était magique. Il m'a parlé un peu de basket, du shoot, enfin. Ouais. C'est bizarre de se dire qu'on a parlé avec Tony Parker comme ça, enfin. C'est vraiment magique.
Vous étiez le premier à réussir ce tir depuis la mise en place du jeu 12 ans auparavant et depuis personne d'autre n'y est arrivé. Vous le disiez, c'est de la chance, c'est 1 sur 1000 ou il y a un petit peu de talent derrière? Je vous taquine.
Ah ben, j'aimerais croire qu'il y ait du talent. Je pense qu'il y a 90% de chance. On va dire que si quelqu'un n'a jamais joué au basket, il faut encore 99% de chance de le marquer. Il y a un petit peu de... Voilà, est-ce que je suis basketteur? Mais non, c'est principalement de la chance.
Ces 100 000 euros, ils tombaient en tout cas bien pour vous parce que je crois que vous veniez de vous retrouver au chômage à 27 ans. Vous en avez fait quoi depuis?
Ouais, effectivement, je venais juste de me faire licencier pour des raisons économiques. J'ai retrouvé du boulot dans la foulée, je crois, un mois après justement ce panier. Du coup, l'argent a été bloqué sur mon compte parce que quand on commence un nouveau travail, on a un an sans congé, on va dire. Donc il est resté bien gentiment sur mon compte. J'en ai profité pour m'acheter une maison. Partir aux États-Unis voir des matchs de basket, faire plaisir à mes amis, à ma famille. Et ça part vite, mine de rien, 100 000 euros.
100 000 euros, 8 ans plus tard, est-ce qu'on vous en parle encore de ce shoot et de cette somme?
Toujours. On va dire qu'au boulot, dès qu'il y a un nouveau, on le taquine en lui disant qu'on a une star au boulot et on lui montre la vidéo. On en parle toujours un peu dans la famille, mais sinon, non, c'est quand même beaucoup redescendu. On va dire que 6 mois, 1 an après le shoot, c'était vraiment une hype assez grande là-dessus. Mm. Après, c'est retombé tout doucement et là, je suis un anonyme qui a réussi quelque chose il y a très longtemps.
Vous continuiez à jouer au basket en club avant la pandémie ou vous avez arrêté?
Ouais, je continuais. Enfin, j'avais de plus en plus de mal à jouer, beaucoup plus pris par le travail. Et puis là, maintenant, j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui vient d'arriver. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais toujours, si j'ai un peu de temps d'aller retrouver les potes du basket, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, c'est le genre de sport qui est une passion. Donc même si on arrête de jouer pendant 2-3 mois, dès qu'on voit un ballon orange, on a envie d'aller mettre 2-3 paniers.
Et on espère évidemment une reprise pour les clubs qui sont à l'arrêt. Je ne sais pas si c'est le cas pour le vôtre avec la pandémie.
Ouais, ils sont à l'arrêt. Ils essaient de s'organiser comme ils peuvent avec des séances d'entraînement à l'extérieur, des défis qui sont sur Facebook, surtout pour les plus jeunes, pour qu'ils gardent un peu la main. Enfin, non, malgré tout, ils arrivent à trouver de pallier un peu à cet arrêt de toute compétition, mais ouais, c'est compliqué.
Et ben, on espère évidemment une reprise et du public dans les salles très prochainement. Merci beaucoup, Thomas Béraud, premier et seul Français donc avoir réussi ce tir à 100 000 euros du milieu de terrain, c'était il y a 8 ans. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu.
Il n'y a pas de problème, merci à vous et bon courage à vous.
Europe 1. Théo Manval.
Bientôt 6h20 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité ce matin est près de 600 000 personnes vaccinées ces 3 derniers jours en France selon le gouvernement qui assure que cette accélération de la vaccination va se poursuivre. Les centres devraient se multiplier à mesure que les livraisons de vaccins augmentent. Elles seront selon les autorités 5 à 6 fois plus importantes au mois d'avril. Le député Les Républicains et capitaine d'industrie Olivier Dassault décédé hier soir dans un accident d'hélicoptère. Ça s'est passé en Normandie près de Deauville. Le fils de Serge Dassault et petit-fils de Marcel Dassault aimait la France. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Et puis le pape François a conclu hier sa visite historique et sous haute sécurité en Irak avec une messe devant des milliers de fidèles à Erbil. Il a appelé les chrétiens d'Orient à ne pas se décourager. Et avant de repartir, le souverain pontife a rencontré le père d'Alan Kurdi, ce petit garçon syrien mort noyé en mer Égée lors de la crise des réfugiés en 2015.
Journée des droits des femmes sur Europe 1.
Vous l'entendez, votre 5-7 se poursuit en musique avec Aretha Franklin et Respect dans la partition signée Amblin Roche. A tout de suite.
Europe 1.
6h23, il est l'heure à présent d'ouvrir la partition d'Amblin Roche. Et en cette journée mondiale des droits des femmes, Amblin, la voix de celle qui s'est non seulement élevée pour les droits civiques aux États-Unis, mais aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Aretha Franklin, une femme dans les années 60, mais en plus une femme noire, une militante, un modèle pour les générations suivantes et qui a su très jeune obtenir exactement ce qu'elle voulait.
Oui, enfant, dans le siège de son père, le brillant pasteur Clarence Lavone Franklin, proche de Martin Luther King, elle est sur les routes en tant que chanteuse. chanteuse dans sa chorale gospel adolescente. Elle sort ses premiers disques en 1967. Aretha Franklin se retrouve à un tournant de sa carrière. La future reine de la soul décide de rejoindre le label qui a révélé Ray Charles, Atlantic Records.
Chez Atlantic à New York, on comprend assez vite qu'il va être inutile de la mettre en concurrence avec d'autres chanteuses populaires à l'époque comme Diana Ross.
Exactement.
Par exemple.
Exactement, Aretha Franklin chante du jazz, elle va réussir, c'est certain, mais à condition qu'elle revienne à un répertoire proche de ses racines gospel. On l'envoie dans le sud des États-Unis, dans un studio en Alabama à Muscle Shoals, au plus près des racines blues et spirituelles.
Sauf qu'Omblin, rien ne va se passer comme prévu.
L'enregistrement tourne au drame à cause d'une altercation entre les musiciens et son mari Ted White. Ils repartent aussitôt. Aretha Franklin ne grave sur place qu'un seul titre, I Never Loved a Man.
Après cet incident, Omblin Roche, Aretha Franklin ne remettra plus jamais les pieds dans ce studio d'Alabama.
Et non, et pour le clin d'œil, bientôt elle ne remettra plus les pieds dans un avion à cause d'une peur bleue de voler. Donc si elle ne va pas à Muscle Shoals, les musiciens de Muscle Shoals, grands spécialistes de la soul sudiste, vont venir à elle, à New York.
Et le pari d'Atlantic Records est donc réussi.
I Never Loved a Man est un triomphe et ce n'est que le début. Looking out on the morning rain. To feel so uninspired.
Pour forger sa légende, Aretha Franklin ne va pas chômer. Elle enregistre beaucoup entre 67 et 69, des titres qui vont devenir ses premiers classiques.
Et l'un d'eux sera dorénavant son hymne. Aretha Franklin, 25 ans, s'empare le jour de la Saint-Valentin d'une chanson d'Otis Redding. Elle la personnalise, accélère le tempo, elle conserve les couplets, mais elle inclut un refrain soutenu par les chœurs, assuré par ses sœurs Irma et Caroline, qui répètent 8 fois « Suck it to me, comprenez, montre-moi de quoi tu es capable, respect et plaisir. » Scandé, R-E-S-P-E-C-T, Aretha Franklin ne demande pas mais exige du respect.
Un hymne profondément féministe et politique, Respect, par Aretha Franklin.
Ouais, une reprise d'Otis Redding, hein, il faut le rappeler. Et puis Otis Redding, quand Aretha Franklin a chanté et a repris cette chanson, il s'est dit maintenant c'est la sienne, ce n'est plus la mienne, elle est profondément
il a
féministe
fait preuve d'humilité,
cette chanson.
Voilà.
Oui, il l'a chantée, mais il disait que ça, finalement c'était celle d'Aretha Franklin. J'en profite pour vous rappeler quand même, que le biopic consacré à la reine de la soul baptisé Respect, dont la sortie a été deux fois repoussée, devrait arriver en salle en France le 18 août. C'est Jennifer Hudson qui a une voix absolument merveilleuse qui incarne Aretha Franklin.
Et on espère que d'ici le 18 août, on pourra aller écouter et voir ça dans les salles obscures. Ouais. Par pitié, merci. Omblin Roche, merci. On vous retrouve demain matin pour la partition. L'histoire cachée derrière un morceau ou un artiste. Tous les jours avant le journal de 6h30 et avant la météo de Laurent Cabrol. Ouais. Laurent, ça s'améliore un petit peu.
Ça va s'améliorer dans la journée, c'est vrai. Parce que en ce moment, il y a pas mal de brume, de brouillard. Enfin bon, c'est classique à cette époque de l'année. Hein. Et puis nous avons dans le sud des petites pluies ici ou là. J'en ai trouvé autour de Lyon, de la vallée de la Garonne, de Tarbes, de Pau, de Montpellier, de Bergerac. Bref, sur la moitié nord, en revanche, le ciel a l'air bien dégagé. Je dis à l'air parce qu'il fait encore nuit, on n'a pas tout à fait les bonnes images, mais il a l'air bien dégagé avec des températures froides, moins 5 à Charleville, moins 4 à Saint-Dizier, moins 2 à Strasbourg, moins 1 en banlieue parisienne, 2 à Lille, 3 à Brest, 5 à Besançon, 6 à Cognac. Température froide, disais-je, alors que dans le sud, bon, les températures sont moins froides, mais il y a une tendance se dessine vers la pluie, mais ces pluies seront disparates, elles seront épisodiques car ce sont des averses. Et ce sera le cas sur tout le sud-ouest, sur une partie du Massif central, l'Auvergne et le Limousin étant touchés vers le sud, et la région Rhône-Alpes. Mais partout ailleurs, sur la moitié nord, ce sera pas mal, avec des valeurs maximales de 9 à 15 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
Nous sommes le lundi 8 mars, bon réveil, un nouveau journal. Bonjour Rémi Bostaron.
Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h30.
C'est très très sécurisant. Je réapprends à vivre normalement. J'étais suivie, traquée, tout ça c'est du passé.
Les droits des femmes célébrés aujourd'hui à travers le monde, c'est aussi le droit d'être protégé de son agresseur grâce au bracelet anti-rapprochement qui se développe en France. Le décès d'Olivier Dassault, l'héritier de la famille Dassault, l'une des plus grandes fortunes de France, a débuté de l'Oise, s'est tué hier soir dans l'accident de son hélicoptère en Normandie. Et puis c'est le genre d'exploit que seule peut offrir la Coupe de France, victoire hier soir des amateurs de Canet en Roussillon face à l'OM, pour la plus grande fierté des supporters.
Juste après ce journal, mon invité Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle directrice générale de la Fédération Française de Tennis. Il y a encore très peu de femmes au poste à responsabilité dans les hautes sphères du sport français. Et pourtant, son itinéraire, son message, ses chantiers aussi pour sauver les clubs. Elle est avec nous dans 10 minutes. Jusqu'à 7h aussi, l'innovation, Anissé Mbida et votre revue de presse internationale. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Olivier Dassault manquera à tous ceux qui, comme lui, aimaient profondément la France. L'hommage du Premier ministre Jean Castex après le décès hier soir de l'héritier de la famille Dassault, fils de Serge, petit-fils de Marcel. Olivier Dassault, âgé de 69 ans, était capitaine d'industrie, mais aussi député de l'Oise sous les couleurs des Républicains. Justin Morin, il s'est tué dans l'accident de son hélicoptère en Normandie.
Oui, tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que cet accident s'est produit vers 17h50 hier soir sur les hauteurs de la ville de Touques, près de Deauville. Deauville où la famille Dassault possède une propriété. Le crash s'est déroulé au moment du décollage, selon le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le BEA, qui a ouvert une enquête. Ses agents doivent arriver sur place ce matin. On sait aussi qu'il s'agissait d'un vol privé, que le pilote a également été retrouvé mort et qu'il n'y avait pas d'autres passagers à bord. Hier soir, la procureure de la République de Lisieux s'est rendue sur le lieu de l'accident. Elle a ouvert une enquête pour homicide involontaire. La section de recherche de la gendarmerie des transports aériens est en charge des investigations. Alors avec la nuit, les enquêteurs n'ont pas pu procéder aux analyses techniques qui permettront de comprendre les causes de l'accident. Ce travail doit commencer dès ce matin.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Près de 600 000 personnes vaccinées en France depuis vendredi.
Application concrète de l'accélération de la campagne annoncée par le gouvernement, avec notamment la mise en place de multiples centres de vaccination. Selon le ministère de la Santé, ce sont désormais près de 3,8 millions de personnes qui ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19 en France. Et c'est important de le souligner, nous en parlions la semaine dernière sur le front de la vaccination des soignants. Olivier Véran assure qu'il sent monter un engouement. Il exclut pour le moment toute obligation de vaccination pour ces professionnels.
6h33 sur Europe 1, c'est aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Et parmi les causes les plus ardemment défendues ces dernières années, la protection des femmes victimes de violences conjugales. C'est l'objectif des bracelets anti-rapprochement qui se développent en France. France. Des bracelets qui permettent d'établir des zones dans lesquelles l'ex-conjoint ne peut plus s'aventurer. Stéphane Frangy a pu rencontrer à Marseille une femme qui bénéficie de ce dispositif salvateur.
C'est avec un petit boîtier GPS glissé dans son sac à main que Anne retrouve enfin le goût d'une vie normale.
Moi, je lui ai donné un petit nom. C'est mon Gabi, en fait, l'ange Gabriel. Je peux envoyer un SOS, je peux demander un rappel.
Son ex-conjoint est lui aussi équipé d'un GPS similaire ainsi que d'un bracelet électronique porté à la cheville. Des appareils qui vont réagir graduellement en cas de franchissement de deux périmètres d'alerte.
C'est très très sécurisant. Ça fait une semaine que je recommence à faire des nuits complètes, à dormir. Plus de boule au vent. Je réapprends à vivre normalement. J'étais suivie, traquée, tout ça, c'est du passé.
Ce dispositif est une alternative à l'emprisonnement, mis en place pour une durée de 6 mois, renouvelable plusieurs fois. Mais le plus compliqué pour les victimes est finalement d'arriver à s'en séparer, selon la procureure Dominique Laurence.
La victime n'est pas une victime à vie. Elle doit reprendre sa vie normale. L'auteur doit reprendre le cours de sa vie normale aussi. Et cette situation d'emprise qui existe doit cesser.
Et la durée maximale du dispositif de bracelet anti-rapprochement est de 2 ans. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
L'actualité politique ce matin sur Europe 1, c'est un serpent de mer de la droite qui refait surface.
Après la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes il y a une semaine, les espoirs de ceux qui espéraient son retour en 2022 semblent douchés et le débat sur une primaire pour la prochaine présidentielle agite les Républicains. Aurélie Herbemont.
C'est Brice Hortefeux qui a remis le sujet sur la table. Pour le sarkozyste, il faudra un scrutin pour départager les candidats de droite. De quoi embarrasser la direction de LR qui affirmait il y a quelques jours la question d'une primaire a quasi disparu des radars au profit du concept de candidat naturel. Patatras, voilà les pro-primaires qui reprennent du poil de la bête. La condamnation de Sarkozy a éteint l'idée de l'homme providentiel et les primaires vont finir par s'imposer, même aux plus réticents, se réjouit le camp Retailleau. Pendant que les pro-Bertrand pestent contre Brice Hortefeux, on lui accorde trop de crédit, tacle un député. Mais un sénateur est convaincu que personne ne s'imposera d'ici juin. Gérard Larcher travaille donc à un système de départage, une primaire qui ne dirait pas son nom puisque le mot est tabou. Il reçoit les propositions des uns et des autres. Scrutin à un tour, élection avec 3 collèges, élus, adhérents, sympathisants. Il peaufine sa copie, glisse un de ses amis. Car le président du Sénat veut faire un point d'étape ce mois-ci.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
C'était l'événement de la nuit à l'étranger. Meghan Markle dit avoir pensé au suicide. C'est l'une des déclarations choc de l'entretien très attendu donné cette nuit donc sur la chaîne américaine CBS.
Face à la présentatrice Oprah Winfrey, la duchesse de Sussex a affirmé avoir eu des pensées terrifiantes provoquées par la couverture agressive des médias britanniques sans recevoir de soutien psychologique malgré ses demandes. Selon elle, la femme du prince Harry, qui est métisse, a également assuré que les membres de la famille royale s'étaient inquiétés de la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance.
Le pape François doit lui rentrer aujourd'hui d'Irak au terme de ses 3 jours d'une visite historique.
Visite conclue hier par une messe donnée dans la ville d'Erbil. François a donné cette messe dans un stade devant des milliers de fidèles et à leur côté. Pour Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Les derniers mots du pape en Irak font référence à Allah. Durant 3 jours, il a œuvré pour que chrétiens et musulmans se parlent. Assise dans les gradins, Claudia est séduite par la méthode.
Nous avons l'impression que Jésus est passé nous voir. J'ai le sentiment qu'avec son passage, avec sa sagesse, toutes les communautés d'Irak se sont réunies. Le lien entre nous est ravivé.
Un lien spirituel, mais pas seulement. Drapeau du Vatican en main, Aziz vit à Karakoche, ville martyrisée par Daesh. Les chrétiens y reviennent au compte-gouttes et il espère que le passage de François va relancer la machine économique.
Le pape est venu mettre un coup de projecteur sur ma ville. Ça suffit pour changer les choses. Les Irakiens et les autorités vont comprendre que nous sommes revenus dans le pays, mais que nous avons besoin d'emploi, qu'il faut nous aider à vivre.
La messe du pape se termine au coucher du soleil. Au même moment, au loin, monte le chant d'un muezzin, un appel à la prière comme un passage de relais. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et on termine avec les sports. Ce journal, Rémi Bostzaron et l'Olympique de Marseille qui a touché le fond hier soir en Coupe de France de football avec une élimination par des amateurs.
Défaite sur le terrain de Canet en Roussillon, c'est l'exploit de ces 16e de finale que savourent les supporters catalans.
C'est énorme d'abord parce qu'ils ont mis bien sûr toute l'énergie puis ils ont joué extraordinairement bien. C'est une leçon de foot franchement exemplaire, solide derrière, ils n'ont jamais tremblé du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une belle histoire pour des milliers, des millions de jeunes. Ça montre en tout cas la possibilité qu'on peut battre une équipe professionnelle. Là, ils ont le cœur, ils ont la passion et ça, c'est magnifique.
Bien sûr que c'est historique, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont issus du club. Hein. C'est très intéressant pour le département, puis pour tous les joueurs et tous les jeunes qui sont frustrés de ne pas pouvoir être venus au stade aussi. C'est une belle récompense pour tout le monde.
Je crois que Marseille, ce soir, ils nous ont pris de haut. Eh bien, ils ont trouvé une équipe qui est encore plus haute qu'elle. Pour un club amateur aujourd'hui comme Canet, maintenant on est en 8e de finale, donc pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Et on leur fait pareil.
Les supporters, ils n'ont peur de rien, les supporters de Canet-Roussillon. Il est interrogé par Romain Bozelli.
Merci, c'était le journal de Rémi Bossaron. Il n'a peur de rien non plus. À 6h38 sur Europe 1, vous le retrouvez tout à l'heure à 8h.
Europe 1.
Et à 6h38, j'accueille l'invité de ce 5-7. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis vendredi la toute nouvelle directrice générale de la Fédération française de tennis. Ancienne joueuse, 3 titres de championne de France chez les jeunes avant d'entamer une brillante carrière chez les grands groupes du CAC 40. Les femmes sont encore rares au plus haut poste des grandes fédérations sportives en France. Alors votre regard, votre parcours, vos ambitions pour le tennis français, on en parle dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.
Europe 1 soutient les droits de toutes les femmes.
Théo Manval sur Europe 1.
Et à 6h40, j'ai donc le plaisir de recevoir ce matin la toute nouvelle directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, je le disais. Et en ce lundi 8 mars, journée mondiale de lutte pour les droits des femmes, c'est un constat qu'on ne peut que rappeler. Encore très peu, trop peu de femmes accèdent à des postes stratégiques comme le vôtre dans le sport français. Est-ce que pour vous y parvenir, déjà, c'est envoyer une forme de signal fort?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a besoin de davantage de femmes à la direction générale des fédérations sportives, aux différents échelons de responsabilité, dans les ligues, dans les comités, à la présidence des clubs, et puis aussi sur le plan présidentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une femme qui est présidente de fédération, Nathalie Péchala, au sport de glace. Donc globalement, la féminisation des instances dirigeantes dans le sport est vraiment un aspect important et qui doit progresser.
C'est un manque. Pourtant, en tennis, en handball, en basket, il y a des filles sur les terrains, il y a des sélections nationales qui performent. Et je rappelle d'ailleurs qu'en tennis, la dernière victoire française dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pas Yannick Noah, hein, c'est Marion Bartoli à Wimbledon en 2013.
Oui, absolument. Après, c'est la grande différence entre les actrices de premier plan, hein, que sont les joueuses sur le terrain, et puis la question des dirigeantes dans ce sport. Et je crois que c'est là que se fait le décrochage.
Justement, vous avez été joueuse Amélie Oudéa-Castéra. Vous avez 3 titres de championne de France chez les jeunes. Vous êtes montée jusqu'au 251e rang mondial chez les pros avant de raccrocher en 96 et d'entamer une autre carrière, mais tout aussi impressionnante. Vous avez fait Sciences Po, l'ENA, la Cour des comptes, avant de passer 10 ans dans des grands groupes chez AXA et puis 2 ans là chez Carrefour. Comment est-ce que, justement, on peut peut-être aider aussi les sportives ou les femmes aujourd'hui à accéder à ces postes à responsabilité dans les sports, en entreprise aussi?
Oui, absolument. Dans les conseils d'administration, les choses progressent parce que la loi a instauré des quotas qui ont conduit les chefs d'entreprise à se doter de pas mal de femmes dans ces instances-là. En revanche, au niveau des comités exécutifs de ces différents grands groupes, les effectifs féminins restent encore trop peu élevés. Et on a besoin de travailler en fait sur l'ensemble de talents féminins à tous les niveaux de responsabilité, parce qu'on sait bien qu'une femme dans un comité exécutif, ça n'arrive pas d'un claquement de doigts comme ça en un an, parce qu'on le déciderait. C'est en fait une stratégie de long terme où il faut travailler sur le plan RH pendant plusieurs années pour former des successeurs et aussi pour se donner la discipline à chaque fois qu'un poste est ouvert à ce qu'il y ait des candidatures féminines qui soient sécurisées. Moi, j'ai toujours coutume de dire, on n'a pas forcément une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens consistant à toujours sécuriser qu'une femme au moins est considérée pour une promotion ou pour une ouverture de poste.
Qu'il y ait des candidates et des ambassadrices ensuite comme vous. Justement, votre mission, selon la Fédération française de tennis, ce sera de mener en tant que nouvelle directrice générale, je cite, hein, la phase de renouveau de la fédération. Quelle va être votre premier dossier? Quelle est l'urgence pour vous aujourd'hui?
La première urgence, c'est d'aider les clubs à pouvoir passer à travers la crise sanitaire et réussir la gestion de crise avec nos 7500 clubs.
Justement, comment on les relance ces clubs aujourd'hui qui ont perdu des licenciés aussi, puisque plus personne ne peut s'entraîner?
Nous, notre conviction, c'est qu'il faut vraiment remettre de la convivialité en travaillant sur des formats de jeu. C'est de travailler sur le match libre, arriver à développer le fait qu'on se met à la compétition sans avoir besoin de tout un tournoi formellement organisé pour permettre ce contact à la compétition, cette espèce de plaisir de la confrontation, hein, qui fait aussi un petit peu le sel de notre sport. Et on voit bien qu'en agissant à tous ces niveaux-là, plus le développement de disciplines affiliées, je pense notamment au padel, au beach dans les régions où ça a du sens, on a vraiment la capacité à réinventer une offre dans nos clubs de tennis qui, j'en suis certaine, peut refaire revenir davantage de pratiquants. On a en 30 ans perdu près de 400 000 licenciés, donc c'est vraiment un sujet important. Aujourd'hui, on en compte un petit peu moins d'un million. Et il faut absolument qu'on parvienne à enrayer cette baisse du nombre de licenciés. C'est l'un des pans les plus importants, prioritaires du programme de Gilles Moreton, notre président.
Parmi les autres dossiers qui sont sur votre bureau, il y a aussi Roland Garros, qui arrive très bientôt, le 17 mai, Europe 1 Radio Partenaire. On a vu du public dans les tribunes de l'Open d'Australie récemment, mais on a aussi vu les difficultés sanitaires avec une mise en quarantaine de centaines de joueurs après un cas positif. Comment est-ce que vous préparez ça, vous, aujourd'hui, à la Fédération ?
On travaille sur tous les scénarios possibles. Et notre volonté est absolument de pouvoir tenir le tournoi aux dates prévues, donc du 17 mai au 6 juin. Nous, on va tout faire sur le plan des protocoles sanitaires que nous proposerons aux autorités pour essayer d'avoir la jauge la plus élevée possible, parce qu'on sait bien qu'un spectacle, ça se vit à beaucoup. Pour qu'il y ait de l'ambiance, il faut des personnes dans les tribunes. Et donc, notre ambition, c'est vraiment de mettre au point des protocoles sanitaires qui tireront les leçons des expérimentations scientifiques en cours, des tests qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Je pense notamment à l'expérimentation qui est menée avec le PSG, l'INSERM, la PHP, pour développer ces dispositifs les plus sécurisants, de manière à faire revenir des gens dans les stades dans des conditions qui soient les plus conformes à la sécurité, à la préservation de la santé de chacun. Donc.
En tout cas, pour les clubs et pour Roland-Garros, beaucoup de travail qui vous attend. Une toute dernière question, Amélie Oudéa-Castéra. On est donc le 8 mars, avec tout ce qu'elle peut avoir de réducteur, cette étiquette de journée internationale pour les droits des femmes. Elle permet aussi de remettre un coup de projecteur sur les inégalités qui persistent. Quelle est aujourd'hui la plus grande urgence, selon vous, concernant les droits des femmes, l'avancée la plus nécessaire ?
Je pense que c'est de créer les conditions qui permettent aux femmes de s'accomplir, de se réaliser dans les différentes dimensions de l'existence. Donc, comme de grandes professionnelles, si elles en ont les compétences, l'envie, la motivation, mais aussi dans leur rôle de mère, dans leur rôle d'épouse et dans leur rôle de femme. Et je crois que le gros travail reste à porter sur la discipline, sur les horaires des différentes réunions, sur la flexibilité qu'on donne au cadre de travail, les visioconférences qu'on a vues se développer pendant tous ces mois de crise sanitaire sont une brique parmi d'autres sur la création de ce cadre de travail qui sera propice à l'émergence de davantage de femmes. Et puis je le disais d'un point de vue RH, chacune de nos équipes dirigeantes de systématiquement considérer des femmes pour les ouvertures de postes et pour les promotions. De vraiment donner le réflexe à des exemples de femmes à qui on donne leur chance à de hauts niveaux de responsabilité. Voilà, essayer de bien faire pour pouvoir inspirer derrière davantage de personnes, voilà, de talents féminins pour qu'elles continuent cette montée en puissance des femmes dans les postes à responsabilité.
Et c'est ce que vous ferez sans nul doute. Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle directrice générale de la Fédération française de tennis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Un grand merci à vous.
Europe 1.
Vous ne bougez pas, l'innovation du jour à suivre avec Anissé Mbida. À tout de suite.
Europe 1, Théo Manval.
Et l'innovation du jour, comme chaque matin, c'est avec vous Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo Manval.
On en a peut-être fini avec le catalogue d'options quand on achète une voiture, nous dites-vous. Demain, elles sortiront d'usine tout équipées. Les options seront ensuite débloquées à la demande par logiciel.
Oui, et évidemment, ça sera payant. Par exemple, en hiver, il fait froid. Hop, vous prenez un abonnement pour avoir des sièges chauffants. C'est l'été, vous partez sur des petites routes de campagne. Toc, vous débloquez l'option GTI.
C'est ajustable en plus.
Exactement. Hein, comme ça, vous avez plus de puissance. Vous pouvez déplacer plus rapidement et avoir un meilleur train avant pour enfiler les virages.
On sent le pilote.
C'est BMW et Volkswagen qui travaillent sur cette nouvelle façon de vendre des voitures. Et leur objectif, c'est évidemment de faire des économies. Donc, plutôt que de fabriquer plusieurs variations d'un même modèle, on en construit un seul, toute option, et on les fait payer après l'achat du véhicule dès qu'on veut les utiliser.
Alors oui, c'est bien parce que ça permet d'ajuster, mais ça veut aussi dire, Anissé, qu'on va payer pour des options que notre voiture a déjà de base.
Exactement, et ça a déjà commencé chez Tesla, où deux options, la conduite autonome et la super accélération, celle qui vous colle au siège, sont activées par logiciel. Il faut payer autour de 7000 euros. BMW a aussi essayé un abonnement annuel à 80 euros pour voir l'écran de son iPhone dans le GPS, mais les clients ont tellement râlé que l'option a fini par devenir gratuite. suite. Mais pour autant, ils n'ont pas abandonné l'idée. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet d'augmenter les marges avec des achats récurrents tout au long de la vie du véhicule. C'est un peu comme les jeux gratuits sur mobile, hein. Vous savez, qui finissent par coûter une fortune à force de payer 1 euro par-ci, 1 euro par-là pour débloquer les niveaux. Mais surtout, ça permet de contrôler le marché de l'occasion parce que les options que vous avez débloquées sont liées uniquement à votre compte. Donc, elles ne pourront pas être rétrocédées à la revente. Donc, méfiez-vous, la plupart des constructeurs pourraient bientôt proposer ce type d'options.
Et comme ça, ils gagnent de l'argent pour une même voiture. On peut racheter 3 fois les options sur la revente à 3 conducteurs différents. C'est très malin. Merci beaucoup. L'innovation du jour signée Anissé Mbida. On vous retrouve demain. Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. On retrouve les correspondants d'Europe 1 qui nous attendent et on commence aux États-Unis. Avec vous, Alexis Guilleux, bonjour.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait la une à New York ce matin ?
Eh bien, le début du procès de Derek Chauvin à Minneapolis, c'est le policier accusé du meurtre de George Floyd. L'an dernier, la mort de cet Afro-Américain a provoqué des manifestations parfois violentes dans le pays, rappelle le Chicago Tribune, et a conduit à une prise de conscience nationale sur la question raciale. Le procès commence aujourd'hui avec la sélection des jurés et choisir un jury impartial s'apparente à une tâche monumentale pour le Star Tribune. Cette première étape devrait durer 3 semaines selon le journal de Minneapolis. Pour le Washington Post, il y a 2 impératifs. Derek Chauvin mérite un procès équitable et les Afro-Américains doivent être représentés dans le jury si on veut que le verdict ait une quelconque légitimité. Minneapolis se prépare déjà à des troubles en cas d'acquittement, explique le New York Times. Des barrières de béton ont été installées autour des bâtiments gouvernementaux, des clôtures surmontées de barbelés ont transformé le centre en forteresse, alors que la ville porte encore les traces des pillages de l'été dernier.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, et on suivra évidemment ce procès avec vous sur Europe 1. On part retrouver à présent l'Espagne. Bonjour Henri de Laguéry.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui occupe les journaux chez vous ?
Eh bien, c'est cette journée internationale des droits des femmes qui se déroulera ici dans une ambiance étrange. À cause du Covid, il n'y aura aucune manifestation à Madrid. Ainsi, on a décidé, le gouvernement socialiste, titre El País. Mais les associations féministes se sentent trahies par la gauche. Elles travaillaient depuis des semaines pour organiser des rassemblements compatibles avec les mesures sanitaires, souligne El Periódico. Depuis 3 ans, cette journée était devenue un rendez-vous incontournable dans un pays en pointe dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les femmes. Mais l'année dernière, les manifestations du 8 mars et ses marées humaines dans toutes les grandes villes, 6 jours avant le confinement total du pays, avait soulevé une immense polémique. La presse de droite l'a reproché pendant des semaines au gouvernement. Pedro Sanchez ne voulait prendre cette fois-ci aucun risque, conclut l'Avanguardia.
Merci Henri de Laguéry, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. On termine ce tour du monde au Sénégal avec vous Margot Chevance. Bonjour Margot.
Bonjour Théo.
Qu'est-ce qui fait la une ce matin à Dakar ?
Eh bien, ce sont les heurts violents qui secouent le pays depuis presque une semaine. 4 morts et la rue qui dicte sa loi, titre le journal Sud Quotidien. En une, on découvre la photo d'un boulevard de Dakar jonché de pierres lancées par une centaine de manifestants en colère. Alors, l'origine d'un tel mécontentement, c'est l'arrestation le 3 mars d'Ousmane Sonko, l'opposant politique numéro 1, raconte Dakar Actu, alors qu'il se rendait à une convocation d'un juge d'instruction pour répondre à des accusations de viol et de menaces de mort. Un complot qui viserait à l'anéantir, clame ses soutiens dans le quotidien Vox Populi. Le témoin, lui, nous apprend qu'une 20aine de supermarchés du groupe français Auchan ont été vandalisés, ont été pillés dans tout le pays. Comme en écho au discours très nationaliste d'Ousmane Sonko. En tout cas, ici à Dakar, la colère, elle ne retombe pas. Le site Sénéweb relaie les nouveaux appels à manifester dès aujourd'hui et pendant 3 jours.
Merci beaucoup Margot Chevance, correspondante d'Europe 1 au Sénégal. Votre fenêtre sur le monde, c'est tous les matins juste avant 7h sur Europe 1.
Europe 1.
7h05, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes et puis Mathieu Béliard s'installe pour le 7-9. A tout de suite. 6h57, merci à ceux qui nous suivent depuis 5h. Mathieu Béliard est arrivé pour vous informer jusqu'à 9h. Bonjour Mathieu.
Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Théo Manval, cette semaine de 5h à 7h aux commandes pour vous réveiller. Merci d'avoir réveillé nos auditeurs. Et à demain Théo. Alors le monde a changé, on va vous le raconter, vous le savez. Mais est-ce qu'il change assez vite le monde ou pas ? C'est l'enjeu de cette journée du 8 mars aussi, journée internationale des droits des femmes. Retour avec nos archives Europe 1, les conquêtes du droit de vote à aujourd'hui. Et ce matin, cette question, quels sont les prochains droits à conquérir ? Le plus urgent, le plus nécessaire. On va poser la question à l'invité de Sonia Mabrouk, interroger peut-être l'égalité salariale avec Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF à 8h15. Vous découvrirez aussi notre enquête « Pourquoi le management féminin est plus efficace à la tête des entreprises ?» Tendez l'oreille, notre dossier, c'est à 8h. Quels sont les combats les plus urgents ? Je poserai la question à la comédienne, humoriste et chanteuse Camille Lelouch. Même si j'ai une idée de sa réponse, vous la connaissez pour ses sketchs ou pour cette chanson.
Mais je t'aime.
Victoire de la musique de la chanson originale avec Grand Corps Malade. Ce matin, elle dévoile N'insiste pas, et c'est sur Europe 1.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé.
C'est très fort et c'est un titre qui dénonce l'emprise d'un homme violent sur sa compagne, les coups, la violence. Ce morceau, vous allez l'entendre. Hein. Aujourd'hui, demain, on va l'écouter ensemble avec Camille Lelouch et parler de son engagement contre ces violences qui ne cessent pas. C'est un rendez-vous important ce matin que le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Voilà quelques-uns des éléments du programme riche ce matin, ce lundi matin. Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Hello, bonjour, 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 bonjour et bonjour à tous. Mathieu, salut à toi. Moins 5 degrés à Charleville-Mézières en ce moment. Mézières, 5 de moins 5. Moins 4 à 10 Saint-Dizier, moins 3 à Nancy, moins 2 à Strasbourg, moins 1 en banlieue parisienne, 1 à Paris, 2 à Lille, 3 à Brest, 6 à Cognac. Je vous donne les températures du matin parce qu'elles sont quand même assez spectaculaire, dans la mesure où on pensait qu'elle serait un peu moins froide. Eh bien si, il fait froid et il fera dans l'après-midi entre 9 et 15 degrés. Là, les températures vont largement se réchauffer. Alors que dire ? Eh bien que sur la moitié nord, sur toutes les régions qui bordent la Manche, en Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Val-de-Loire, région parisienne et Poitou-Charentes, dans toutes ces contrées, nous aurons du soleil. Le soleil sera omniprésent, mais ce sera un soleil d'hiver. Et puis sur les régions du sud, c'est un régime d'averses, entrecoupé d'averses, de nuages, de soleil. Mais enfin bon, sont surtout les averses qui vont prédominer et ce ne sera pas folichon sur toutes les contrées qui vont du sud-ouest à la région lyonnaise. Sur le Languedoc et la Provence Côte d'Azur, le temps sera voilé. Voilà pour une journée en demi-teinte, comme vous l'avez compris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Installez-vous confortablement, vous êtes sur Europe 1, on écoute le monde changer.